Bonjour. Dans le cadre des émissions Urgence proposées par la Ligue des droits de l'homme, ce mois-ci, nous vous proposons le thème suivant. L'immigration, droit des étrangers. La France, pays des droits de l'homme, justifie-t-elle encore cette réputation? Pour en débattre aujourd'hui, nous recevons Jean Maillet, président de la Ligue des droits de l'homme de Rodez, et Guy Gousset. Mais d'abord, nous allons écouter Lily de Pierre Perret. Ensuite, nous irons sur le marché de Villefranche où, une fois par mois, la Ligue des droits de l'homme réalise un micro-trottoir pour être plus près de la réflexion de nos concitoyens. Nous continuerons avec le débat et nous conclurons cette heure avec le billet d'humeur de Dominique Ladé.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Qu'évoque pour vous le terme immigration?
Pour moi, un immigré, bon, c'est quelqu'un d'une nationalité différente à la nôtre.
Forcément, la pauvreté du lieu de départ.
Afflux, étranger.
Désertification d'un pays pour immigrer vers un autre.
De toute manière, c'est un arrachement. Pour moi, ça évoque l'arrachement de chez soi.
Qui essaye de trouver à vivre dans un endroit différent où il est né.
Pour quitter les répressions.
Vers un espoir de vie décente ailleurs.
L'immigration, elle n'est jamais véritablement choisie, je crois, pour beaucoup de gens. Hein.
C'est... Eh bien, c'est un problème d'emploi. C'est-à-dire que les gens viennent, ils pensent trouver d'emploi chez nous, alors qu'il y en a très peu, malheureusement.
Ouais, parce qu'à un moment donné, il y a ça aussi.
Bon, ben, on est obligé de partir, d'aller ailleurs et de transmuter. Parce qu'on passe, on espère toujours, passer d'un état pauvre à un état riche. Mais enfin, ça peut être intellectuel aussi. La migration, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un pays très riche pour aller dans un pays très pauvre, parce qu'on est soi-même très pauvre dans un pays riche, et on peut devenir riche dans un pays pauvre.
C'est à peu près l'histoire de l'espèce humaine qui est partie apparemment du Rif éthiopien
pour se taler un peu partout sur la terre.
C'est la mobilité, c'est l'échange des cultures, c'est le multiculturalisme.
La France n'est peuplée que de gens qui sont venus d'ailleurs, donc...
L'immigration est un phénomène naturel qui a toujours fait partie de l'histoire des hommes.
L'immigration est-elle source de richesse pour une nation ?
Un immigré, quand bien même soit sans papier en France, c'est quelqu'un qui consomme en France, donc qui rapporte de l'argent en France, qui va parfois travailler, même peut-être au black, mais malgré tout, l'argent se retrouve toujours à injecter dans le système. Donc quelque part, ça fait partie du système économique qui est à revoir, mais c'est un autre problème. Mais voilà, l'immigrant, je pense, et le phénomène migratoire n'a jamais entraîné qu'une augmentation des richesses plutôt que l'inverse.
Forcément.
Le chacun chez soi, c'est pas bon.
Forcément, ce sont des cultures qui viennent extérieures, qui viennent enrichir aussi notre culture par notamment le biais, bon, je vais dire un gros mot, d'assimilation. Mais ça, on l'a toujours vu à travers l'histoire, quoi, depuis la plus haute antiquité. Hein.
Comme disait Montaigne, limer sa cervelle à celle d'autrui.
Un immigré qui arrive dans la force de l'âge, il n'a rien coûté à notre société, il est prêt à travailler. À partir du moment où il trouve un travail, pour moi, ça fait partie de quelqu'un qui peut vivre autour de nous sans problème.
Bon, ben, y a pas photo, hein, c'est une source de richesse.
Puisque notre pays a été constamment influencé par l'immigration depuis la nuit des temps.
C'est eux qui paieront la retraite à nous, amen.
Absolument, quand on sait que rien qu'à Marseille, l'immigration, ça rapporte à peu près, je crois, 11 milliards d'euros. Enfin, c'est un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros. Enlevez les immigrés, vous enlevez 11 milliards d'euros.
Si la nation est intelligente, c'est une source de richesse. Si elle est bête comme elle semble vouloir le devenir, c'est une source de soucis.
Les étrangers vivant en France doivent respecter les lois de la République. Doivent-ils pour autant abandonner leur identité culturelle ?
Faire partie d'un pays, si on y vient pour y rester, il faut quand même peut-être se mettre aussi dans l'identité culturelle du pays qui nous accueille.
Ça, c'est compliqué, ça, là.
En tout cas, pour ce qui est les premières générations d'immigration, forcément, ils sont nés dans leur culture, ils ont leur culture. Par contre, après, au bout de la deuxième, troisième génération, les enfants sont nés dans... on va dire la culture française ou occidentale, si on voit les choses plus largement. Donc là, du coup, bon, il y a des problèmes d'identité qui se posent et c'est pas forcément très simple. Donc c'est aussi aux lois de la République de prendre en compte ce genre de problématique.
Bon, il faut que chacun y mette du sien.
Alors là, ça c'est plus délicat.
Ils ne peuvent pas vivre chez nous comme ils vivent chez eux, ça c'est pas possible.
À partir du moment où on émigre dans un pays, on devrait quand même se plier un peu, s'intégrer.
Tout le monde doit respecter le droit.
Pour vivre chacun dans le respect de l'autre.
Encore faut-il s'entendre sur les lois de la République.
Pour celles qui sont tolérables, évidemment, parce qu'il y a quand même des lois qui sont toujours à revoir. C'est pas sous prétexte que ce sont des lois républicaines qu'elles sont toujours particulièrement justes.
Ce sont des citoyens à part entière, après, comme les autres.
Qui pourrait renier sa culture ? À commencer par nous, d'ailleurs.
Dans nos régions, nous avons des identités fortes que nous gardons, et c'est très bien.
On a sa culture, point.
Et leur identité culturelle doit enrichir chemin la communauté.
On n'abandonne pas son identité culturelle. Quand on est Aveyronnais à Paris, on reste Aveyronnais, puis Parisien. L'essentiel, c'est d'être quoi ? D'être Français originaire d'Algérie ou Algérien vivant en France ? À vous de le savoir. Maintenant, il est très évident que la République donc offre un cadre de vie sécuritaire et sécurisant à tous ceux qui arrivent d'ailleurs. Ici, en France, personne n'est maltraité ni maltraitable. C'est pour ça qu'existent donc les droits de la République française qui s'imposent à tous de manière égale. Cela va de soi. Parce qu'il faudrait prendre garde à un piège, c'est de créer la création d'un droit des immigrés qui ne serait pas le droit des Français. Attention.
Bon, après, il y a des sujets, la burqa, le voile, moi je suis contre.
Je rentre de Roumanie, je dois dire qu'on est de plus en plus mal perçu, alors que le français était très, très, très bien perçu en Roumanie jusqu'alors. Mais avec ce qui se passe ces derniers temps, je peux vous dire que l'identité française est en train d'en prendre un sacré coup.
Les étrangers résidant en France peuvent-ils avoir le droit de vote aux élections municipales?
Sans problème, oui, à partir du moment où ils sont intégrés, où ils participent à la vie locale, où ils travaillent. Pour moi, un immigré qui a un logement, qui a un boulot, qui travaille chez nous, pour moi, c'est un Français. Il n'y a pas de problème.
Bien sûr, là-dessus, il y a eu des votations, il y a eu un tas de choses faites, et pour les municipales, c'est des citoyens à part entière dans les villes.
Ça me paraît assez indispensable, de toute façon...
Les étrangers travaillant en France sont des gens qui sont intégrés au tissu social, donc à la vie de la cité. Donc, quelque part, être intégré à la vie de la cité, c'est être citoyen. Être citoyen, c'est avoir le droit de vote. Moi, je serais même plutôt partisan d'étendre la chose bien au-delà des municipales.
Ouais, ça devrait être... C'est une promesse de la gauche depuis 81, si je me rappelle bien. Oui, mais ça devrait être oublié. Oui, bien sûr. Complètement.
Là, il y a des questions.
Tout citoyen résident en France, dans la légalité, bien sûr, a le droit de participer à la vie locale. Donc, il a son mot à dire et bien sûr qu'il a son droit de vote comme un autre.
Ils vivent ici. Ils consomment ici. Ils subissent les lois scélérates contre eux. Et il est évident qu'ils doivent pouvoir prendre part à la vie ici, à la vie en société.
Aux élections municipales, quand même, il est normal que les gens rentrent avec des papiers. D'abord, c'est pour leur bien-être et pour le respect de l'humain. Ça veut dire qu'ils sont accueillis, qu'ils sont respectés. S'ils arrivent à avoir ces papiers, c'est tout à fait normal qu'ils votent. S'ils ne les ont pas, je ne sais pas comment aussi on peut donner un droit de vote à des gens qui ne font pas partie de ce pays, qui sont là illégalement.
Si on crée un droit des étrangers, attention à ne pas tomber dans certains travers. Parce qu'on peut commencer par une bonne idée et terminer par une mauvaise. Alors, un étranger aurait-il le droit de voter ? Moi, j'estime qu'à partir du moment où on réside plus de 5 ans dans une municipalité, on a parfaitement le droit de participer au vote concernant la municipalité. Puisqu'on y paye des impôts, on y est présent. Souvent, on est présent aussi dans les associations, etc. Donc, à ce moment-là, on vit dans la cité, on partage la vie de la cité. Tout à fait normal.
Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance ?
Alors là, okay. Pas plus qu'entre capitalisme et mafia. C'est la même, moi, je pense.
Alors là, ça n'a aucun rapport.
Quand on entend la télé et la radio, évidemment. Hein.
Si on est dans une situation précaire, je crois qu'à un moment donné, on fait n'importe quoi pour se sortir de sa mouise et on peut faire des choses illégales.
C'est juste un effet de date. Ça aurait pu être des pauvres blancs. Il y a des pauvres cons aussi, mais ça, on peut pas là.
Ça, je le sais, merci.
En ce moment, il y a plus de pauvres noirs que, enfin, de couleurs que de pauvres blancs. Mais enfin, disons que ça se voit moins. Voilà. C'est ça qu'il faut surtout souligner.
Bon, il y a des délinquants partout. Ouais. Ça, c'est comme les gauchers, hein, il y a un pourcentage.
Ça, je n'en sais rien. Je suis mal placé pour juger.
Pourquoi il y a que les immigrés qui sont délinquants?
Je n'en sais rien.
Je ne pense pas. Donc, il n'y a pas de lien. C'est à nous de veiller à ce que les citoyens puissent jouir de toute leur autonomie. Et avec ça, la délinquance sera réduite à sa plus simple expression.
On fait des amalgames, on crée des ghettos.
C'est sûr qu'à partir du moment où une bêtise est faite par un immigré, on a tendance à dire ouais, ça y est, c'est des immigrés. Mais je pense qu'il y a quelques Français qui doivent quand même.
Je pense que de toute façon, le seul lien qu'on puisse établir par rapport à la délinquance, c'est l'état de misère. C'est l'état de paupérisation de plus en plus importante de la population en France et de partout en Europe d'ailleurs, et même en Occident. La délinquance, c'est quelque chose qui apparaît pour des situations de misère et certainement pas pour des situations de différences culturelles.
Il y a autant de voleurs français que... Et ils sont même en haut en général.
Je pense que ce sont les ghettos. C'est pas l'immigration qui pose un problème. Ce sont les ghettos qu'on construit pour l'immigration qui posent un problème.
Ce n'est pas parce qu'on est immigré que l'on est forcément délinquant. Et je connais de bons bourgeois qui sont de la graine de délinquants. La délinquance financière, ça existe. Hein. La délinquance en col blanc, ça existe. La délinquance des bons Français, ça existe aussi. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il y a effectivement une délinquance chez certaines personnes issues de l'immigration. Hein. Mais bon, il faudrait encore étudier leurs conditions de vie, leurs conditions d'accueil. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent.
Après, derrière, qui dit immigrant ou immigré, dit travailleurs. Donc ce ne sont pas des gens qui sont préoccupés par le vol, ils sont des gens qui sont occupés par le travail, par la recherche de situations sociales. Ce sont des gens ambitieux qui veulent à tout prix réussir et non pas finir dans une geôle. Thank you.
voici les questions que nous allons poser à Jean Mallier, qui est le président de la Ligue section de Rodez, de la Ligue des droits de l'homme s'entend, section de Rodez. Nous allons lui poser ces questions au débotté, mais comme il a une grande expérience sur le sujet, je suis sûr qu'il nous trouvera des réponses qui nous intéresseront et nous interpelleront tous. Jean, si tu le veux, voici la première question. Qu'évoque pour vous le thème immigration ?
Pour moi, qui suis un participant actif du collectif des réfugiés de la région de Rodez, l'immigration, c'est ce tas de gens qui déboulent dans le pays d'à côté, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, nous n'en avons que quelques-uns. Pourquoi font-ils ça ? Parce que chez eux, où il y a la guerre, où il y a la misère. La guerre et la misère, ils sont toujours ensemble, mais quelquefois la misère, elle est toute seule. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils quittent leur pays. Alors, il y en a qui s'imaginent qu'ils font ça de gaieté de cœur. Ils partent en laissant tout, en laissant quelquefois leurs biens, s'ils en ont, en laissant leurs amis, leurs parents, et ils partent vers un pays dont ils espèrent qu'il les recevra et qu'ils y referont leur vie.
L'immigration est-elle source de problèmes ou de richesse pour une nation ?
Les deux, dirais-je. Mais source de problèmes, elle les pose à ceux qui n'apprécient pas cette chose-là. C'est pas l'immigration, enfin si, c'est l'immigration en elle-même, mais je veux dire, il n'y a pas de problème spécifique à l'immigration, sauf qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que ils sont déjà, le voisin, c'est pas leur cousin, comme on dit, hein, et plus les gens viennent de loin, et plus ils les craignent, parce qu'en fait, c'est ça. Quant au fond, richesse, mais oui, c'est une richesse. D'ailleurs, je voudrais citer un fait. En 1974, la France a fermé les frontières. Mais dans le même temps, le président de la République et le gouvernement d'alors, le président c'était François Destin, pas François, c'est l'évêque. Le président c'était Giscard d'Estaing, et il a créé une chose qui n'existait pas, qui était le droit au regroupement familial. Alors on se dit, mais cet homme, il était très humain. Et non, il était très matérialiste, parce qu'il s'était aperçu, et pas lui seul, que les gens, quand ils venaient seuls dans le pays, les hommes seuls dans le pays, n'avaient qu'un souci, dépenser le moins d'argent possible ici pour l'envoyer à leur famille à l'étranger. Et puis, il y a des gens, Giscard était de cela, mais il devait y avoir des conseillers qui l'étaient aussi, qui ont dit, mais c'est bête de le laisser expédier l'argent. Faisons-les venir, ils travailleront ici, ils y travaillent déjà, mais les familles consommeront ici.
Merci. Les étrangers vivant en France doivent respecter les lois de la République. Doivent-ils pour autant abandonner leur identité culturelle ?
Quant au respect des lois de la République, d'abord, tout citoyen français doit la respecter aussi. Mais eux, bien entendu, ils vivent chez nous. Et ils respectent des lois pour lesquelles ils ne prennent aucune part dans l'élaboration, puisqu'ils n'ont pas, du moins pour la plupart, parce qu'il y a quand même une petite exception, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, ils subissent nos lois sans pouvoir dire leur mot. Et bien sûr, la culture, il faut qu'ils gardent la leur. Hein. Ça ne fait rien de superposer des cultures, à mon avis. C'est un enrichissement. Quand nous recevons donc des étrangers, notamment nous avons reçu pas mal d'Africains. Et moi, je leur ai toujours dit, tu parles ta langue à ton enfant. Il faut qu'il apprenne ta langue, même s'il apprend le français. Écoute, imagine qu'il revienne au pays, et puis quand même, il apprendra mieux les coutumes et tout ça. Il faut que tu lui apprennes ta langue.
C'est très humain. Les étrangers résidant en France peuvent-ils avoir le droit de vote aux élections municipales ? Et vous savez, tu sais, Jean, que cette question nous tient à cœur à la Ligue des droits de l'homme, parce que tous les ans, les sections qu'ils veulent font la votation citoyenne. On interroge nos concitoyens sur ce fait. Donc, on ne pouvait pas faire autrement que de la glisser dans nos 5 questions. Jean, je t'en prie, tu peux développer.
Bien sûr, il faudrait que les étrangers vivant en France votent. et pas seulement aux élections municipales d'ailleurs. Rappelons quand même que sur ce qui est du droit de vote, il y a deux catégories d'étrangers dans notre pays. Il y a les ressortissants de la communauté européenne qui peuvent voter à certaines élections, notamment aux élections européennes. Et puis il y a les autres, tous les autres, les Africains, les gens européens qui arrivent en ce moment mais qui viennent de Tchétchénie, du Dagestan, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, et qui eux n'ont pas le droit de vote. Et donc il faudrait arriver à ce que... Alors l'idée... avance péniblement, parce que, sauf erreur, la proposition de loi, une proposition avait été faite dans les années 82 ou 83, et puis elle n'a pas eu d'autre suite. Elle a été votée, je crois, quelque part, par une assemblée, mais pas par les autres, pas par l'autre. Et, enfin, on n'a pas posé la question, on a resté, on a mis ça sous le coude, comme on dit.
Oui, je me souviens de ça, que Monsieur le Président de la République, Monsieur Sarkozy, en l'occurrence, avait dit qu'il s'était à discuter. C'était dans son programme. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça a été oublié.
C'était dans le Mitterrand avant.
Également. Mmh. Également, faisons, oui, dos à dos. Bien, la cinquième question. Je ne vais pas dire enfin, parce qu'on en aura tellement d'autres à poser, mais c'est la cinquième que nous avons prévue dans notre questionnement. Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance? Et vous savez pourquoi on se la pose? Parce qu'on l'a entendu poser en haut lieu. Donc on aimerait, nous, la développer un peu plus, cette question.
C'est un grand débat, à mon avis, pour un faux problème. Parce qu'il faudrait comparer des choses comparables. Pour affirmer ces faits, qui peuvent exister, effectivement, on s'est basé sur des statistiques de petits délits de droit commun. Et on s'est aperçu que des populations avaient, semble-t-il, un taux de délinquance supérieur aux Français, si on compare à tous les Français. Maintenant, si on fait la comparaison, et qui est la seule juste, entre une classe d'âge, une classe de ressources, étrangers, et français, dans la mesure où on peut le faire, parce que la comparaison n'est pas si évidente. Ça paraît dans les tribunaux s'ils sont étrangers, mais s'ils sont fils d'étrangers, ça n'apparaît plus, sauf peut-être par leur nom de famille. Donc on s'est aperçu que les statistiques, elles étaient du même ordre, si on compare des hommes, à ce moment-là, l'immigration, là, quand ces statistiques, ces premières ont été dressées, l'immigration était surtout masculine. Donc si l'on compare des hommes et des hommes de faibles revenus, puisqu'à l'époque, ils avaient pratiquement tous, on les prenait aux endroits, il fallait des OS aux usines Renault, il fallait des mineurs dans les mines du Nord. Mais c'est pas des métiers où vraiment on gagne des 1000 et des 100. Donc, ces gens-là, ils se retrouvent dans des classes pauvres. Ben, il se trouve que les classes pauvres, elles ont peut-être un peu plus tendance à faire des larcins que d'autres, parce que ça tient presque de leurs besoins, si on peut dire, parce qu'ils souffrent de tout un tas de choses. Il y a ce point. Il y a aussi que pour les étrangers, il faut quand même penser aussi qu'on comptait comme délictueux les infractions au droit de séjour. Et par définition, celle-là, le Français, il pouvait pas la faire. Hein? Donc, on en comptait quelques-unes de plus. Par contre, si on va par là, de la délinquance en col blanc chez les étrangers, il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a quand même beaucoup moins. Non pas peut-être qu'ils soient plus honnêtes que d'autres, mais parce que tout simplement, ils sont pas en position de le faire, très souvent. Hein? Et ça... De toute façon, en France, personne ne la voit, la délinquance en col blanc. Sauf que c'est quand même beaucoup plus source de ressources pour ceux qui s'y livrent que tous les vols, les larcins, les cambriolages qui arrivent tous les jours, un peu partout. Et il y a un autre problème qui fait que peut-être il y a des gens qui commettent des actes de délinquance. On est en train de créer dans notre pays une situation d'apatride. Nous avons des gens qui ont demandé l'asile en France mais vous savez que sur 100 qui demandent, il y en a 16 ou 17 qui l'obtiennent. Les autres, donc, ils sont refusés. Ils sont refusés et on essaie de les renvoyer chez eux. Et s'ils ne partent pas, ils sont en France en situation irrégulière. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler, qu'ils n'ont droit à aucune ressource, et qu'ils sont là, vivant souvent d'expédients. Et ça, c'est tout simplement que on a fait une situation, à ces gens-là, on a fait des situations intenables. Alors, je ne veux pas dire que ces gens-là ont le droit de voler, etc. Mais je veux quand même dire que si on met des gens dans la situation de n'avoir aucune ressource, avec cet Eldorado, ou ce qu'ils imaginent, à côté, ben, ça crée chez eux des besoins et quelquefois ça entraîne des gestes pas très sympathiques pour les autres.
Et ça me rappelait quand tu parlais du film qu'on a, le documentaire, c'est presque un documentaire plus qu'un film qu'on a eu l'occasion de voir la semaine dernière à De Casseville, qui s'appelle Illégal. C'est un film, peut-être pourrais-tu nous en dire deux mots si nous avons le temps toutefois. Peut-être pourrais-tu nous en dire deux mots parce qu'on a l'intention de le faire venir à Villefranche. Il s'agit de personnes, une femme en l'occurrence, qui se trouve être en centre de rétention. C'est la vie de ces personnages bien développée et qui, indiscutablement, nous fait réfléchir. C'est ce que nous, on demande, c'est de faire réfléchir les gens. Tu peux nous en parler, Jean, s'il te plaît, de ce film ?
Bien sûr. C'est un film extrêmement attristant et prenant à la fois. Et il se passe en Belgique. Mais précisons tout de suite que la situation en France n'est pas très différente. Il y a quelques modalités qui peuvent changer. Bon, nous avons... Alors, il faut un peu revenir, j'en ai touché deux mots tout à l'heure là, mais au système qui existe en France et pratiquement dans tous les pays d'accueil des gens qui viennent d'autres pays. Et dans les gens qui viennent d'autres pays, il y a deux catégories. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils sont économiquement coincés, et il y a aussi les gens qui partent parce qu'ils sont dans des pays où la vie leur est devenue impossible. Et je pense en ce moment à la Tchétchénie, qui est en état de guerre civile, je pense à l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Ces pays-là étaient à un moment chapeautés par l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Et les populations se mélangeaient. Et qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des mariages qu'on dit mixtes, à savoir que l'homme d'un État se mariait avec la femme qui était de l'État voisin, et ils travaillaient où ils étaient. Et le chapeau était tellement bien posé qu'il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce groupe-là a éclaté, mais les dissensions qui étaient entre les pays se sont refait jour, à tel point que on a des gens venant d'Arménie et d'Azerbaïdjan, des couples qui viennent en France, qui demandent l'asile politique ou pas, puisque l'asile politique, c'est pas le nom, hein, c'est asile avec plusieurs raisons. Et on le leur refuse. Et ces gens-là, du coup, on veut les renvoyer dans leur pays. Et oui, mais les pays ne les veulent pas. Résultat, ils sont, dit en France, inexpulsables, exclus en droit et inexpulsables en fait. Et on les laisse dans cette situation absolument aberrante. C'est vraiment... Alors là, cette dame, elle est en Belgique, elle travaille au noir vraisemblablement. En France, on n'a pas le droit de travailler, en tout cas, tant qu'on est demandeur d'asile et qu'on n'a pas eu de titre de séjour. Donc, elle travaille. Elle a un enfant qui a 12 ou 13 ans. Et elle a bien demandé l'asile, mais ça ne marche pas. Et alors, on voit tous les problèmes auxquels elle se heurte. Elle, parce qu'elle a été prise un jour. On lui a demandé les papiers, elle en avait, mais ils étaient faux et tout le monde, et on s'en est aperçu. Et elle a été conduite dans ce qu'on appelle en France, on appelle ça un centre de rétention administrative. Peut-être pas le même nom en Belgique, mais le résultat est le même. les gens se retrouvent finalement enfermés en attendant qu'on trouve, qu'on puisse, en général, les réexpédier dans leur pays. Sauf que s'il y a refus, ben, on ne peut pas les réexpédier. Là, il y a une différence entre la Belgique et nous. En France, si on envoie les gens en centre de rétention et s'ils sont pas, si on n'a pas trouvé de solution au bout de 45 jours, il faut les relâcher. On voit que c'est partie remise parce qu'on leur a 7 jours de répit et puis si on les rechoppe, on les renvoie en centre de rétention. Où le résultat est le même, on peut s'amuser comme ça au yo-yo. Sauf qu'en Belgique, on peut les garder plusieurs mois d'affilée. Et là, c'est ce qui arrive à cette femme, puisqu'on parlait de 5 mois. Et donc, finalement, cette femme est séparée de son gamin. Alors, il y a des moments absolument pathétiques, parce que le gamin a trouvé sa trace, la trace de sa mère. Il est allé devant le centre de rétention, il s'est montré à la fenêtre, et il voulait voir sa mère. Et elle, elle faisait non, 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 parce qu'elle avait caché son identité pour ne pas être rapatriée, et elle voulait surtout pas que lui soit pris aussi. Donc, elle lui faisait signe qu'il fallait surtout pas. Enfin, il a quand même compris, il n'est pas entré. On voit une autre scène particulièrement pénible aussi, c'est que pour qu'on ne la retrouve pas, elle se brûle. Pour qu'on ne la retrouve pas, elle se brûle les empreintes digitales sur un fer à repasser. Il paraît d'ailleurs que ça ne marche qu'un certain temps, que les empreintes ressortent. Mais enfin, la douleur, elle doit être quand même aussi durer un certain temps, peut-être plus que le reste. Et finalement, on voit aussi, toujours dans ce film, on voit des gens reconduits dans des avions manu militari. Et ce qu'on ne voit pas, mais qu'on soupçonne, c'est quand ils remontent dans l'avion, quand ils refusent de partir, on leur dit, vous avez le choix, vous pourrez refuser de partir. Quand ils refusent de partir, ils repartent dans un fourgon de police. Et là, à voir comment ils sont à la sortie, le dialogue est pas tout à fait le même. Ils sont bourrés de coups de pied, de coups de poing. On en voit qui sont attachés pour être conduits à l'avion. Une femme noire en particulier qui est non seulement attachée, mais bâillonnée. Et ça, on le voit aussi dans les aéroports français. On voit en plus, là, c'est un aspect intéressant, un commandant d'avion qui refuse de prendre un passager comme ça, parce que le gars veut pas partir. Et le flic lui dit, mais vous allez contre la loi. Et il dit, ici, la loi, c'est moi. Et c'est vrai, je veux dire que dans un avion, c'est le chef de bord qui décide, en dernier ressort, de savoir s'il prend ou s'il prend pas tel passager.
Et c'est arrivé, je me souviens, en France, ça, des passagers qui se sont insurgés contre cet état de fait et qui ont, grâce à leur réaction, permis aux prisonniers de quitter l'avion. Et le commandant de bord lui dit, madame, je vous prie de quitter mon bord.
C'est arrivé en France, sauf que l'affaire n'est pas finie, parce que un des responsables, c'était à l'aéroport je crois que c'était à l'aéroport de Toulouse. Enfin, n'importe. Un des responsables qui s'appelle toujours d'ailleurs Barthélémy, il va passer au tribunal pour, entrave, je ne sais quoi, ensuite au renvoi d'un étranger. C'était un Lyonnais, et il va passer au tribunal, ces jours-ci d'ailleurs, l'affaire remontant à une paire d'années.
Quoi. Oh oui, ça fait à peu près, un an et demi, 2 ans. Jean, si tu le permets, j'ai une question supplémentaire à te poser qui me tient à cœur parce qu'elle m'a été posée par une amie. Voilà. Cette amie, à son tour, a un ami qui est né au Maroc, qui maintenant a 27 ans, mais qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Ça fait donc 17 ans qu'il est en France. Il a fait ses études en France et il est à la veille de se faire expulser. Comment peut-on expliquer ça ?
On ne peut l'expliquer que par la politique que, pour ma part, j'estime aberrante de notre pays. Parce que cet enfant, finalement, cet enfant, c'est plus un enfant, il a toute sa vie ici. Il l'a plus au Maroc, même s'il y a ses parents. Mais alors, on entre dans tout un tas de de lois, de textes qui se compliquent tous les jours et qui ont été mis en place par les gouvernements qui se sont succédés. Mais le plus fort, évidemment, c'est le dernier. Alors, premièrement, le Maroc est un pays sûr. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander l'asile si on vient du Maroc. C'est un point de détail, mais c'est important. Pas dans le cas qui nous concerne. Deuxièmement, cette personne a vécu en France et elle a fait des études. Et pendant les études, elle a travaillé. Mais quand il faut passer du statut d'étudiant qui donne le droit de travailler quelque peu au statut de possesseur d'une carte portant la mention travail autorisé, mais là, il y a une coupure très nette et en principe, c'est un refus systématique. Une partie de la solution de ce problème, c'est que il peut, me semble-t-il, arguer du fait qu'il y a plus de 15 ans qu'il est en France. Et étudier ça. Et après, bon, tout ce que je peux dire, c'est que il est difficile de traiter au cas par cas des problèmes comme ça dans un cadre général. Il faut que les gens s'approchent des associations qui s'occupent de ça. Il y en a à Villefranche, il y en a une à Rodez, il y en a à Millau. Bon, il faut chercher peut-être un peu, mais en tout cas, la Ligue des droits de l'homme est à même dans ces trois villes de vous renseigner ou de vous aider directement. En tout cas, de vous envoyer vers les personnes qui peuvent avoir non pas une réponse, mais une aide à la solution. Mais vraiment, ça devient de plus en plus difficile. Il y a une volonté délibérée de chasser les étrangers de chez nous. Et vous comprenez, on veut faire mieux que les Suisses, qui ont réussi cet exploit il n'y a pas longtemps, hein, de voter. Pour le moment, ils ne parlent que des étrangers délinquants. Je suis d'ailleurs très inquiet parce que il y a des tas de Français qui vont se faire chasser de Suisse. Ah, c'est vrai que c'est peut-être pas une délinquance chez eux que de déposer de l'argent français dans les banques suisses. Il faut croire que non. Sinon, vous vous rendez compte de l'exode qu'il y aurait de Suisse vers la France ou vers d'autres pays. Donc, invitation à vous mettre en relation et vous dire quand même que il faut s'armer de patience et il faut ne pas perdre espoir quand même, parce que il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Évidemment, c'est bien aussi, si on peut, de trouver des hommes de loi pour vous aider. Encore faut-il qu'ils soient compétents sur le sujet. Et c'est pas forcément en Aveyron qu'ils sont le plus compétents, pour une raison toute bête. C'est que les jugements, ils se passent à Paris. Ils se passent à Toulouse, au tribunal administratif. Et quand les avocats de Rodez sont sollicités, pour Toulouse, par exemple, tribunal administratif, mais avec l'aide juridictionnelle, ils sont payés pour une heure ou deux heures ou trois heures de travail, mais le temps qu'ils passent sur la route à Toulouse n'est pas compté. D'aller de Rodez à Toulouse, ça vous fait perdre la journée entière pour un avocat. Et pour tout le monde, mais enfin. Hein. Par contre, à Toulouse, il y a des gens qui sont compétents et qui sont militants.
Merci Jean. Il y a un petit détail que j'aimerais te demander, toujours dans le sujet. J'avais entendu dire que quand ils se marient, en tout bien tout honneur, je veux dire par là, pas un mariage arrangé, un vrai mariage d'amour, j'entends. Est-ce que ça peut arranger les choses?
Oui, ça, oui, bien sûr, oui, oui. En principe, quand il y a mariage, on peut obtenir un titre de séjour comme conjoint. Attention, mariage avec un Français ou une Française ou avec un étranger en situation régulière en France. Hein. On peut obtenir un titre de séjour. Ça, c'est la théorie. La pratique, elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre parce que très souvent, on leur dit « D'accord, on va vous donner un titre de séjour, mais vous allez repartir dans votre pays et vous allez demander un visa de long séjour » pour, comment dirais-je, un visa de long séjour, parce que vous êtes marié avec un Français ou une Française. Et le visa, on le demande au consulat. Et les consulats, qui sont un État dans l'État, semble-t-il, d'après ce qu'on en sait, les consulats n'en font qu'à leur tête, des livres, etc. Chaque fois qu'on demande un titre de séjour, un visa à un consulat, on paie. Mais s'ils refusent le visa, ils ne rendent pas l'argent. C'est une façon de s'enrichir, peut-être, pour la France, n'est-ce pas ? Il faut quand même voir les détails.
Merci, Jean.
Et si on parlait de démocratie ? Premier acte du pacte pour les droits et la citoyenneté que propose la Ligue des droits de l'homme et de multiples partenaires. Que m'en dit l'actualité ? Et m'en dit peut s'entendre de plusieurs façons. M'en dit du verbe mentir. M'en dit du verbe mendier. Tout un programme qui mériterait de s'y arrêter, mais je vais en rester là pour l'instant au verbe dire. Donc, qu'est-ce que m'en dit l'actualité ? Tout d'abord, remaniement ministériel. En fait, ne soyons pas dupes. La course au pouvoir est relancée, parce qu'il s'agit bien de recommencer à préparer la prochaine élection présidentielle. La place doit être bonne. Mais surtout, elle permet de faire évoluer favorablement les avantages des lobbies qui ont permis cette prise de pouvoir. De l'autre côté, nous avons l'élection en Côte d'Ivoire. Là aussi, il s'agit bien des avantages à sauvegarder pour les uns et les autres. Notre président a pris position pour celui des deux qui semble avoir été élu le plus démocratiquement. Mais ce qui se passe là-bas n'est pas très net, pour le moins. La démocratie est belle. Mais j'oserais dire que là, ce n'est pas que beau. Mais la démocratie, au fond, c'est quoi ? Bon d'accord, étymologiquement, cela signifie « souveraineté du peuple » ou « pouvoir du peuple ». Abraham Lincoln disait « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Est-ce que c'est ça que nous vivons en France ? Est-ce que c'est ça que les Occidentaux tentent d'imposer partout dans le monde ? Certainement, sans doute. Cependant, si nous réfléchissons, qui élisons-nous ? Des personnes qui veulent défendre le bien commun, défendre les idées qui nous ont vendues, et une fois que c'est fait, une fois qu'ils sont en place, eh bien ils estiment qu'ils ont, pour toute la durée de leur mandat, carte blanche. Je peux faire tout ce que je veux puisque j'ai, moi, la légitimité démocratique, je suis un élu du peuple, ou du moins ce pourquoi en fait je me suis fait élire. Défendre mes intérêts et ceux des miens. Lutte des classes ? Peut-être. Mais sûrement lutte des intérêts. Vous avez, comme moi, bien entendu, des intérêts, non ? Tous partisans, tous écrasant l'autre ou le niant. Le commun du peuple n'est pas assez sage, pas assez instruit, pas assez beaucoup de choses. Car pour pouvoir garder ce bien précieux, dans Le Seigneur des Anneaux, conte fantastique moderne, on parle du précieux, l'anneau du pouvoir, celui qui annihile son porteur au service du côté noir de la force. Mais c'est une autre histoire. Je digresse. Car pour pouvoir garder ce bien précieux, donc, tous les gouvernants évitent, oublient, n'ont pas les moyens de donner une éducation suffisante et des armes de réflexion qui permettraient à tout un chacun de comprendre, d'analyser, de participer à la chose publique, la République. Quand je parle des gouvernants, j'y associe aussi les partis politiques, car pour eux aussi, l'objectif est la prise du pouvoir, ou de pouvoir. Ne parle-t-on pas de supprimer ou de limiter l'enseignement de l'histoire et de la philosophie ? Comment donc allons-nous aider à la réflexion ? Aujourd'hui, il est de bon ton de taper à tout va sur les hommes politiques. Comme il est de bon ton de taper à tout va sur le fonctionnaire. Les deux sont pour moi indispensables à une vraie démocratie. Chacun a sa place. Notre société, en urgence, doit muter de ce côté-là aussi. Les élus ne sont plus les représentants du peuple issus du peuple. Ils sont devenus, pour beaucoup, des professionnels qui ont pour métier de participer à la gouvernance, on dit maintenant, de la commune, du département, de la région, du pays. Au nom et à la place du peuple.
aucun contre-pouvoir n'est en place. Et pour moi, pire que ça, les citoyens sont dans un tel état que leur priorité ne va pas vers plus de participation aux choses publiques. C'est bien une révolution pacifique de mobilisation, d'énergie, de conscientisation qu'il nous faut mener, sans à aucun moment penser que j'ai seul la vérité et tout le temps la bonne réponse. C'est là aussi tout un programme de rééducation, entre parenthèses, qu'il nous faut initier. Car enfin, dans notre société contemporaine, qu'est-ce qui compte le plus ? Une montre de telle marque, et avant 50 ans bien sûr, une voiture de luxe, le pouvoir, l'argent, le pouvoir de l'argent, l'argent du pouvoir. Dans tous les cas, c'est gagner, et à tout prix. Ne pas être un loser, mais un winner. Peut-on reprocher aux hommes politiques leur attitude ? Ils reproduisent aussi ce que les gens attendent d'eux. Qui osera présenter une autre forme de gouvernance et mettre en place des outils de contrôle de l'action de nos gouvernants ? Qui pourra lutter contre ce laisser-faire général ? Me revient en mémoire les paroles d'une chanson « Mais c'est facile de laisser les autres penser pour soi. Alors, sans savoir pourquoi, tu es parti. Mais c'est bientôt fini, Johnny. » Les partis politiques pensent effectivement plus à être efficaces. On parle de vote utile qu'à produire des projets politiques, des projets de société. La société civile a largement sa part dans cette dérive. Elle doit, elle aussi, prendre part dans la reconquête, dans le réveil, dans la réanimation de la démocratie. Certains me disent « Tu crois au Père Noël, Dominique ? C'est humain que chacun tente de protéger ses propres intérêts. » Il se trouve que c'est justement la période de Noël. Mais pour autant, ma croyance et mon engagement vont plus vers un développement du vrai vivre ensemble, où mon intérêt individuel passe aussi par l'intérêt collectif. Mon intérêt personnel n'écrase pas l'intérêt collectif. Très loin, sans doute, à l'opposé du libéralisme qui continue à construire, ou plutôt à détruire la société humaine actuelle. Pas non plus dans le sens d'un collectivisme qui finit par nier l'individu et tombe lui aussi dans les mêmes travers. Non, il faut, c'est vital, trouver une autre voie. Ça peut encore s'écrire de plusieurs façons. Intéressant. Car au bout, il s'agit bien de la survie et dans les meilleures conditions possibles de notre humanité. Ces quelques mots, je te les envoie aussi, Lolo, comme un clin d'œil.
Cette émission d'urgence qui vous est proposée par la Ligue des droits de l'homme et CFM se termine. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour débattre du vivre ensemble. Meilleurs vœux à vous tous.